Ce soir, nous allons voir la divinité du Christ, et plus particulièrement dans la suite de l'histoire sainte que nous avions lue de manière très résumée pour cette année. Et nous allons voir ici que le Saint Paul a enseigné cette divinité du Christ en tant que pharisien, et qu'il voulait dire à ses frères hébreux, descendants d'Héber, descendants donc de Sem, descendant d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qui s'appelle aussi Israël, de ses 12 fils, dont Judas, qui a donné le terme de juif. Mais c'est un terme d'une des 12 tribus qui est donné maintenant à toutes les tribus, mais vous aviez d'autres tribus de... juives, qui étaient par exemple Benjamin, Manassé, Dan, et 12 Lévi, et 12 autres tribus. Alors donc, il y a une discussion sur l'auteur de la lettre de l'Épître aux Hébreux, parce que, le style ne ressemble pas, vraiment pas, aux autres lettres de Saint Paul. Donc qu'est-ce que ça signifie ? Et ça signifie que ça a été, c'est l'enseignement de Saint Paul qui a été donné, qui a été retranscrit peut-être par Silas ou par Barnabé. Et donc tout le monde se dispute pour savoir qui a tenu la plume. C'est sûrement pas Saint Luc, enfin c'est probablement pas Saint Luc, mais c'est très bien écrit. Et c'est un style plus complexe que celui de Saint Paul. Mais c'est l'enseignement de Saint Paul, et surtout c'est l'enseignement profond et traditionnel de la synagogue. Donc c'est un pont extraordinaire entre les très bons théologiens juifs et les premiers chrétiens. Donc je n'en dirai pas plus, car nous allons lire cette épître. Et c'est très impressionnant parce que vraiment, on part de très haut, tout de suite. On part de Dieu, du Créateur, et de celui qui a, à travers les siècles, parlé aux hommes, et plus particulièrement au petit peuple hébreu. Après avoir, chapitre 1 de l'Épître aux Hébreux. Alors il n'y a pas d'annonce, hein, on ne sait pas qui l'a écrite en fait. On l'attribue à Saint Paul parce que c'est la doctrine de Saint Paul. C'est l'enseignement de Saint Paul. Après avoir, à bien des reprises et de bien des manières, parlé autrefois à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes. Déjà, l'introduction est assez impressionnante. C'est un juif qui parle. Les pères ici, Dieu qui a parlé à nos pères par les prophètes, c'est les descendants d'Abraham. Et à bien des reprises et de bien des manières. Hein. C'est la traduction très littéraire de l'abbé Louis-Claude Fillon, la Bible Fillon. 1881-1914, qui est une des plus belles traductions, et surtout à partir de l'hébreu et du grec. Alors, ici, les derniers temps, nous sommes à la fin de l'année liturgique, et bien les derniers temps, en fait, c'est les dernières révélations les plus importantes de Dieu. Par le Fils, affirmation déjà de la Trinité. Parce que ce Fils, il a été établi héritier de toutes choses et par lequel il a fait les mondes. Par lequel il a créé. Parce que le Fils, c'est la pensée éternelle de Dieu. C'est son intelligence qui se pense, qui réfléchit. Ça, c'est la méthode Saint-Augustin qui simplifie la Trinité, qui est bien au-delà de cette simplification. Mais vous vous rendez bien compte que ce n'est pas par hasard que nous croyons à la Sainte Trinité. Ceux qui, par exemple, chez les témoins de Jéhovah, nous disent que c'est un mot inventé, que la Trinité n'existe pas, que Jésus n'est pas Dieu, et tout ça, je dis, mais bah, lisez la Sainte Écriture. Justement, l'Épître aux Hébreux, ils sont très réfractaires, ils la lisent à l'envers, à l'endroit, voilà. Et voilà que l'auteur de. Donc que j'appellerais Saint Paul, parce que c'est lui qui donne cette substance de cet écrit, par lequel il a aussi fait les mondes, et qui, étant la splendeur de sa gloire, quand même, le Fils est la splendeur de la gloire de Dieu. Donc c'est. Si vous voulez, c'est comme le soleil et les rayons. Sauf qu'il n'y a pas de différence entre le soleil et les rayons en Dieu. L'empreinte de sa substance, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors les hérétiques vont pouvoir dire, oui, mais alors c'est une empreinte, c'est pas Dieu lui-même. Oui, mais c'est, si vous voulez, c'est l'empreinte même du Père. Qui me voit le Père. Et soutenant toute chose par la parole de sa puissance. Après avoir opéré la purification des péchés, soutenant toute chose par la parole de sa puissance. Non, le Fils, mais il est Dieu. S'il soutient toute chose, il est Dieu. Ah oui, mais alors vous avez déjà deux dieux, hein? Vous avez Dieu le Père et Dieu le Fils. Non, non. Il est justement le miroir de sa substance. Ici, l'empreinte de sa substance se traduit aussi parfois par le miroir de sa substance. Après avoir opéré la purification des péchés. Et comment il a fait pour purifier les péchés? De l'homme, le péché originel, tous ses siècles, tous ses descendants d'Adam et Ève, Caïn, Abel, la destruction de la population humaine. Dans la plaine du Tigre de l'Euphrate, par le déluge, la dispersion des langues à Babel, parce qu'après le déluge, il n'y a que 8 personnes qui ont survécu, nous dit Saint Paul, et Noé et son épouse, Sem, Cam et Japheth, et leur épouse unique, ils étaient monogames. La décadence revient, l'idolâtrie revient, et là, Dieu, ayant promis de ne plus punir d'une manière solennelle, va disperser les langues. Et donc, à la fin des temps, si vous voulez, Dieu ne manque pas à sa parole. C'est la fin des temps, quoi. C'est une punition définitive. Tout le monde va mourir. Hein, comme je le dis souvent, même ceux qui seront dans des blocos à 15 km sous terre, eh bien, ils vont cuire comme dans un micro-ondes au moment où le feu du ciel va arrêter la vie terrestre. Et comme dit Saint Paul, nous mourrons tous en un clin d'œil. Devenant d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Là, on commence à avoir des mots qui sont auxquels il faut se faire attention. S'est assis à la droite de la majesté, au plus haut des cieux, devenant d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Mais là, il y a une idée de devenir et d'hériter. Alors, une antériorité, une postérité, là, il faut faire attention. Et alors, on reconnaît Saint Paul quand même parce que il y a des arguments. Saint Paul, lui, il prouve ce qu'il dit. Et donc, il y aura beaucoup de citations des Saintes Écritures, comme dans Saint Matthieu. Saint Matthieu est très soucieux de citer la Sainte Écriture parce qu'il veut obtenir la conversion à leur Messie de ses congénères, de ses coreligionnaires. Saint Matthieu est un juif, et il veut absolument que les autres juifs reconnaissent Jésus comme Messie. Et donc, l'évangile de Saint Matthieu est très tourné vers les Hébreux, vers les Juifs. L'Épître aux Hébreux, c'est, si vous voulez, si un rabbin honnête lit l'Épître aux Hébreux, il ne peut être que ébranlé. Il y a des citations de la Sainte Écriture dans tous les sens. Car auquel des anges a-t-il jamais dit, hein, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Ça, c'est dans le psaume que nous retrouverons dans le deuxième texte. Le psaume. Je ne le retrouve pas. Psaumes, ce sont les prières chantées du roi David, de Salomon et des prêtres du temple. Le roi David, sur 150 prières, 150 psaumes chantés, il en a rédigé au moins 70-80. On lui attribue. Et c'était donc un roi prophète et un homme de guerre, mais un homme spirituel en même temps qui composait des prières, assisté par le Saint-Esprit. Et encore, je serai son père et il sera mon fils. Il faut quand même que ces prières du roi David soient éclairées. Alors on va dire, oui, mais c'est Dieu qui est paternel vis-à-vis du roi. Non, c'est le roi David a une inspiration de la vie intime de Dieu. Et de nouveau, lorsqu'il introduit son premier-né dans le monde, il dit, alors là, ça c'est très important par contre, parce que on considère que c'est à ce moment-là que Lucifer s'est révolté. Là aussi, c'est dans les psaumes. Il introduit son premier-né dans le monde. Et il dit... Que tous les anges de Dieu l'adorent. L'adorent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, ce fils, c'est qui, si on doit l'adorer? Et si les anges doivent l'adorer? Vous comprenez pourquoi Lucifer, lui, n'accepte pas? Parce que ici, c'est son fils dans l'incarnation qui est présenté aux anges, d'après la doctrine commune. À la vérité, quant aux anges, il dit « Celui qui fait de ses anges des vents, c'est-à-dire des courants d'air, des serviteurs rapides comme l'air, et de ses ministres une flamme de feu. Mais quant au Fils, ton trône, ô Dieu, est dans les siècles des siècles, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Donc le psaume qualifie le Messie de Dieu ici. Ton règne, ô Dieu, est dans les siècles des siècles. Alors, mais non, ça concerne, ce passage concerne Dieu, pas le Messie. Tu as aimé la justice et tu as haï l'injustice. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'as oint d'une huile d'allégresse de préférence à tes compagnons. Mais ça concerne le roi David qui a été oint comme roi d'Israël. Oui, mais ça concerne aussi le Messie. Quelle est cette huile? Eh bien, c'est l'huile de la divinité qui imprègne l'humanité de Jésus. Et encore, c'est vous, Seigneur, qui au commencement avez fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de vos mains. Ils périront, mais vous demeurerez, et tous ils vieilliront comme un vêtement, et vous les changerez comme un manteau, et ils seront changés. Mais vous, vous êtes le même et vos années ne finiront pas. À qui ces paroles sont adressées? Au Messie? Mais comment le Messie peut-il ne être immortel à ce point-là? Auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis l'escabeau de tes pieds » Ne sont-ils pas tous des esprits qui servent envoyé pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent recevoir l'héritage du salut. Au passage, les anges gardiens. Description de la mission des anges, tout en passant. Ne sont-ils pas des esprits qui servent? Chapitre 2. C'est pourquoi nous devons nous attacher avec plus de soin aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés au loin. Car si la parole qui a été annoncée par les anges est demeurée ferme, c'est la parole. Les Hébreux estiment que ce sont les anges qui ont été les intermédiaires de Dieu pour leur parler au pied du mont Sinaï quand ils sont sortis d'Égypte. La loi a été donnée par les anges. Donc on entendait une voix unique, une voix forte, mais les Hébreux disent non, Dieu n'a pas parlé, il n'a pas de bouche. Il a fait vibrer l'air par l'intermédiaire de ses esprits, de ses serviteurs, de ses anges. Dieu peut très bien faire vibrer l'air tout seul sans passer par les anges. C'est la tradition synagogale. Car si la parole qui a été annoncée par les anges est demeurée ferme, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu la juste rétribution qui lui a été due, la tribu de Lévi qui passe à travers tout le campement hébreu et qui tue plus de 20 000 hébreux qui sont en train de danser pour le veau d'or. La juste rétribution. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut qui, après avoir été annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu de lui, les apôtres, les saintes femmes, les disciples. Donc il est en train de dire, la première alliance était redoutable et extraordinaire, il faut croire en la deuxième alliance. Et dont Dieu a appuyé le témoignage par des signes et des prodiges, c'est-à-dire des miracles, par les différents effets de sa puissance et par la distribution des grâces du Saint-Esprit comme il lui a plu. Hein, ne devons-nous pas y adhérer? Saint-Esprit, hein, l'expression telle qu'elle. Donc vous voyez, Père, Fils et Saint-Esprit, ça ne vient pas d'un théologien du Moyen-Âge, c'est les premiers siècles. Ce n'est donc point aux anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Quelqu'un a fait quelque part cette déclaration. Vous voyez, comme il ne connaissait pas, comme moi, la référence exacte, il dit c'est dans la Sainte Écriture. Hein, c'est bon. Qu'est-ce que l'homme pour que vous vous souveniez de lui ? Ou le Fils de l'homme pour que vous le visitiez. Vous l'avez abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Donc il était au-dessus au début. Vous savez, l'Épître aux Hébreux est très facile à lire. Et vous l'avez couronné de gloire et d'honneur, et vous l'avez établi sur les œuvres de vos mains. Vous avez mis toute chose sous ses pieds. Mais ben non, c'est quand même pas rien, hein, le descendant de David. Hein. Or, par là même qu'il lui a soumis toute chose, il n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que tout lui soit soumis. Pas encore. Attendez les trompettes de l'Apocalypse, vous verrez. Mais celui qui avait été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, c'est-à-dire Jésus. Là, ça y est, il dit clairement qui est le Messie. Nous voyons à cause de ses souffrances et de sa mort, on est au chapitre 2, hein. Déjà, il dit tout. Parce que saint Paul est subjugué par la mort du Christ. Il l'a refusé de croire d'abord à cause de ça. Parce que le Messie ne peut pas mourir. C'est le grand roi, il ne peut pas mourir. Il a fallu qu'il accepte sa mort. Et en plus, il a fallu qu'il accepte sa divinité. Comment Dieu peut-il mourir? Mais à travers la nature humaine qu'il a prise, c'est sa nature humaine qui n'est pas morte, ce n'est pas Dieu. Mais si vous voulez, comme il y a une union dans la personne, le Christ est mort. Mais à cause de ses souffrances et de sa mort, couronné de gloire et d'honneur, afin que par la grâce de Dieu, il goûtât la mort pour tous. Vous vous rendez compte? Toute la théologie catholique, tout votre catéchisme est là. Les premiers siècles, hein, c'est les années 60, l'Épître aux Hébreux. Donc tout est ancien, tout est vrai. Car il convenait que celui par lequel et pour lequel et par lequel sont toutes choses, vous vous rendez compte un peu ces expressions, hein, qui voulait conduire à la gloire un grand nombre de fils, éleva à la perfection par les souffrances l'auteur de leur salut. Donc là, c'est Dieu le Père, hein. Il convenait que celui par lequel, pour lequel et par lequel sont toutes choses, le puissant, l'ancien des jours, qui voulait conduire à la gloire un grand nombre de fils, nous sommes les enfants de Dieu. Vous voyez. Éleva à la perfection par les souffrances l'auteur de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il ne rougit pas de les appeler frères, disant, et ça c'est dans les psaumes, hein, « J'annoncerai votre nom à mes frères, je vous louerai au milieu de l'assemblée, et encore, je mettrai ma confiance en lui, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Puis donc que les enfants ont en partage la chair et le sang, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il détruisît celui qui avait l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable, le diviseur. Et qu'il délivra ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie assujettis à la servitude. Vous voyez, comme il a eu un corps humain et une âme humaine, il pouvait mourir. Et donc, en mourant, il meurt à notre place. Vous ne retrouvez pas le catéchisme le plus simple? Car ce n'est pas aux anges qu'il vient en aide, mais il vient en aide à la race d'Abraham. C'est pourquoi il a dû en toute chose être rendu semblable à ses frères, afin de devenir un pont entre le ciel et la terre. Un pontife miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour expier les péchés du peuple. Car c'est par les souffrances et les épreuves, le mot tentation ici est piégé de nos jours en français, qu'il a lui-même subi, qu'il peut secourir ceux qui sont tentés. Vous voyez, il est homme. Et donc, il a vécu une vie d'homme et il a souffert comme un homme, il est mort comme un homme. Alors qu'il est Dieu aussi, mais il est homme aussi. Mais vous vous rendez compte l'importance de l'innocent qui offre ses souffrances pour les coupables. Chapitre 3. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le pontife. Pontife, c'est celui qui fait le pont, hein, de la foi que nous professons, Jésus, qui est fidèle à celui qui l'a établi, comme Moïse l'a été dans toute sa maison. Donc c'est un prophète au niveau de Moïse. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant plus grande que celle de Moïse, que celui qui a construit la maison a plus d'honneur que la maison même. Plus grande que celle de Moïse. Voyez. Parce que lui, il a construit la maison. Enfin, il est l'origine. Et Moïse, lui, construit le tabernacle, met dans l'arche d'alliance les preuves de l'action divine. Alors, il faut que vous lisiez à deux, vous mettiez l'un à côté de l'autre quand même. Hein. Chapitre 3, verset 4. Pour Moïse, à la vérité, il était fidèle dans toute la maison de Dieu en qualité de serviteur, en témoignage des choses qui devaient être dites. Mais le Christ a été fidèle en qualité de fils sur sa maison. Et cette maison, c'est nous, parce que pourvu que nous retenions ferme jusqu'à la fin la confiance et la gloire que nous espérons. Nous sommes la maison, nous sommes le temple, nous sommes le corps du Christ. Le Christ est la maison. Le Christ est le temple. Il n'y a plus besoin de temple sur l'esplanade de Jérusalem. La construction du troisième temple sera malheureusement un blasphème. Et ça, les protestants américains, ils ne sont pas d'accord. Eux, ils veulent qu'il y ait un troisième temple parce qu'ils sont très judaïsants et qu'ils voudraient que les Israéliens deviennent évangéliques. Que les Juifs se convertissent au christianisme, mais sous leur coupe d'évangéliques américains avec des méga church. Et là, ils sont là, ouais, ouais, ouais. Les Juifs sont plus circonspects. Avant, ils acceptent les honneurs et les louanges et les aides matérielles éventuellement des Américains évangélistes, mais pour le reste, c'est un grand sourire. Voilà. S'ils les aident à construire le temple, il n'y aura aucun problème. Donald Trump, lorsqu'il a transféré l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, on lui a présenté les plans du temple et on lui a montré comment on allait raser la mosquée du dôme, comment on allait raser la mosquée d'Al-Aqsa et tout ça. Voilà, comment on allait... Mais voyez-vous, moi je vous parle religieusement, pas politiquement. S'il y a des conséquences politiques à tout cela, moi j'y suis pour rien, hein, s'il y a une troisième guerre mondiale. Enfin, parce que même la Malaisie hein, pètera un plomb. Avant, après. Et dans l'Épître aux Hébreux, vous avez le pourquoi de ce que je vous dis. Mais le Christ a été fidèle en qualité de fils sur sa maison. Et cette maison, c'est nous. Parce que nous, pourvu que nous retenions ferme jusqu'à la fin, la confiance et la gloire que nous espérons. Verset 7 du chapitre 3. C'est pourquoi, selon ce que dit l'Esprit Saint, et à nouveau, c'est la Sainte Écriture, c'est un psaume. Donc d'où vient l'enseignement de l'Église catholique de dire que l'Écriture est inspirée par l'Esprit Saint? Ben voilà. Non, c'est pas des théologiens du XIIe siècle ou des pères de l'Église du IVe siècle. Non. L'Esprit Saint dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, mais comme au temps de l'irritation, comme au jour de la tentation dans le désert où vos pères m'ont tenté, m'ont mis à l'épreuve et ont vu mes œuvres. Hein, quand ils ont fait le veau d'or, parce que Moïse ne redescendait pas du mont Sinaï. Pendant 40 ans, il les a fait tourner pendant 40 ans, tous ceux qui avaient refusé d'aller en Terre Sainte sont morts dans le désert. Tous ceux qui étaient majeurs et qui avaient refusé en pleine conscience, ont été allongés dans le désert. C'est pourquoi je me suis irrité contre cette génération, et j'ai dit, leur cœur s'égare toujours, et ils n'ont pas connu mes voies. Aussi ai-je juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, qu'il n'y ait en quelqu'un de vous un mauvais cœur incrédule qui le sépare du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres tous les jours, aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui », afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, séduit par le péché. Parce que dans le psaume, c'est un aujourd'hui permanent. C'est aujourd'hui 2018. C'est aujourd'hui l'an 58 ou 62, quand cette épître a été écrite. Car nous sommes devenus participants du Christ, pourvu toutefois que nous retenions fermement jusqu'à la fin la foi que nous avions en lui au commencement. Aussi longtemps qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de cette irritation, car quelques-uns, l'ayant entendu, irritèrent le Seigneur. Mais ce ne furent pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse qui purent être sauvés. Or, contre lesquels Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché, dont les cadavres furent renversés dans le désert? Et auquel Dieu jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient été incrédules? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Chapitre 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos nous est laissée, que l'un de vous n'en soit exclu. car elle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, c'est-à-dire les premiers juifs à connaître Jésus comme Messie. Mais la parole qu'ils entendirent ne leur servit de rien, n'étant pas associée à la foi dans ceux qui l'avaient entendue. Mais nous entrerons dans le repos, nous qui avons cru, celui selon ce qu'il a dit, deux points, comme je l'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos, c'est-à-dire dans le repos qui suivit l'achèvement de ses œuvres après la création du monde, la vie éternelle. Car il a parlé ainsi quelque part au sujet du septième jour. Voyez, l'auteur de l'Épître aux Hébreux ne connaît pas tout, se rappelle des paroles, mais il ne sait pas de quel livre. Comme il l'a parlé ainsi quelque part. Et c'est extraordinaire de preuve de l'antériorité des livres saints, de l'antériorité du livre de la Genèse. Bon, c'est quelque part dans les écrits de Moïse. Alors nous, qui avons tout répertorié, après ça c'est dans la Genèse. Oui, ben oui, mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, ben c'est ainsi, il en a parlé, je ne sais plus trop où. Le psaume 24, bon, c'est un psaume. Voilà. Au sujet du septième jour, et Dieu se reposa le septième jour de toutes ses œuvres. Et ici même, il dit encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Puis donc, il est réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux qui reçurent les premiers la promesse ne sont pas entrés à cause de leur incrédulité. Dieu détermine de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant par David, donc c'est David qui a écrit le psaume 94. Ça y est, je m'en souviens. Si longtemps après, comme il a été dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué, qui était le compagnon de Moïse et le chef des armées, leur avait procuré le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Ce n'est pas le repos des Juifs qui sont attirés en Terre Sainte, puisque le roi David arrive 400 ans plus tard. Donc, c'est un autre repos dont parle David. Il reste donc un repos pour le peuple de Dieu. Car celui qui est entré dans le repos de Dieu se repose aussi lui-même de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos de peur que quelqu'un ne tombe en suivant cet exemple d'incrédulité. Hein, ne construisez pas de veau d'or, c'est pas bon. L'idolâtrie, mais votre idolâtrie, ça peut ne pas être de faire le dieu Apis ce soir dans votre salon. Hein, ça peut être de vénérer la tablette et l'internet d'heures entières au lieu de téléphoner à quelqu'un, de visiter quelqu'un, de prier, enfin voilà. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Et ça, c'est quand même le style de Saint Paul, enfin le style et les idées de Saint Paul. Hein, le grand rigolo de la Sainte Écriture. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, est plus pénétrante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle démêle les pensées et les intentions du cœur. Extraordinaire comme expression. Hein. Vous retrouvez ça dans le livre de la Sagesse. Hein. Mais là, vous voyez que c'est vraiment particulièrement inspiré par l'Esprit Saint. Lui, il dit que les autres passages sont inspirés par l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint parle, mais lui-même, en écrivant, ne se rend pas compte que c'est l'Esprit Saint qui veut donner la vérité. L'humilité de l'auteur sacré, vous voyez, qui lui écrit ce qu'il sait, ce qu'il a médité, mais en fait, Dieu lui fait souvenir tel point, et ajoute, avec son propre vocabulaire, des vérités et des révélations. Nulle créature n'est visible en sa présence. Nulle créature n'est invisible en sa présence, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ça, vous voyez, la doctrine de l'omniscience de Dieu, ben, elle est rappelée là, par exemple. Mais... Chapitre 4, verset 14. « Ayant donc un grand pontife qui a pénétré dans les cieux, comme dans le saint des saints du temple, Jésus, Fils de Dieu, demeurons fermes dans la profession de notre foi. Car nous n'avons pas un pontife qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce dans un secours opportun.